extrait de la bande passante. Alain Pilot, Cécile Bonici.
Avec cette musique, c'est reparti sur de bonnes bases parce que maintenant on juge la musique, les artistes. Il y a quelques années, on jugeait un phénomène, une mode qu'on voulait mettre là, une image qui voulait rien dire parce que bon, les gens qui appréciaient ça ne connaissent même pas le beat africain, c'est-à-dire le rythme, ou ne comprenaient pas cette musique. Maintenant, on juge les artistes, on comprend la musique. Ce public qui connaît bien cette musique africaine a tendance à évoluer et s'ouvre. Et je suis content et je pense que avec cette musique, nous partons sur de bonnes bases.
Nous aussi, nous repartons sur de bonnes bases avec ce deuxième épisode du portrait de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, son métier, son écriture et Youssou, la révélation. Avant d'être révélé, il faut peut-être associer, combiner.
J'avais commencé à mélanger, reprendre des choses traditionnelles, ensuite augmenter des choses là-dessus. Au fur et à mesure, j'ai connu la composition, j'ai développé mes idées même. Des fois, j'avais une idée qui marchait bien et que je mettais dans une chanson traditionnelle, ainsi de suite. Mais je dois dire que ça ne fait pas très longtemps que je conçois vraiment une chanson entière à moi-même avec mes idées.
Youssou N'Dour, en 1989, après la séparation de l'Étoile de Dakar, en l'espace de 2 ans, Youssou devient pratiquement le numéro 1 de la chanson sénégalaise et analyse son passage au sein de cette formation. C'était en 1984.
Je vais essayer d'aller avec un groupe pour essayer de comprendre les difficultés que l'on rencontre en tant que musicien. Donc je suis allé avec le groupe. Je ne dis pas que le groupe Étoile ne devait pas continuer. Mais j'avais intention de continuer avec le groupe jusqu'à long terme, jusqu'à maintenant. Mais il y avait une sorte d'indiscipline, d'incompréhension qui se mesurait là-bas. Et j'ai vu que comme je voulais travailler moi pour aller à l'avant, je ne vais pas m'attarder à certains problèmes. Et de là, j'ai décidé à former mon orchestre. Et j'ai fait appel à des musiciens que j'étais avec au groupe Étoile. Je les ai embauchés, bon, les fait travailler, mais il n'y a que bon, le futur qui a changé, mais rien n'a changé, sinon on évolue au même rythme. Et je veux dire, bon, il n'y a que les recherches qui s'améliorent. Nous aussi, comme on est jeunes, là où on passe, on comprend beaucoup de trucs.
C'est un rythme, des textes impliqués, mais c'est aussi et surtout un timbre de voix reconnaissable entre mille. Derrière cette belle carrière, il y a pas mal de monde, mais surtout celle que l'on surnomme la gazelle, celle qui donne des ailes, sa manageuse pour l'Europe depuis 37 ans, genèse de leur rencontre qui n'avait pas si bien commencé.
Youssou, je l'ai connu au Filouane à La Défense, un club de musique où beaucoup de musiciens africains commençaient à se produire. Et en effet, le lendemain, on l'avait invité à venir faire l'émission et j'avais vu ce grand gaillard arrivait avec ses lunettes noires et en plein hiver, à 9h du soir. Donc, voilà. Déjà, il me faisait rigoler.
Mais ça cachait une timidité, en fin de compte, ces lunettes noires.
Oui, oui. En plus, c'était une époque où il parlait très peu le français. Voilà, ça cachait une timidité, ça cachait plein de choses.
Nous sommes en quelle année, là ?
82.
Qu'est-ce qui va vous décider à travailler ensemble ?
Ben, je crois qu'on ne l'a jamais décidé. Ça s'est fait assez naturellement. Après cette émission qu'on a faite ensemble, on s'est côtoyés régulièrement, on est allé à Dakar avec Gilles Aubringer, on s'est revus plusieurs fois. Donc non, Youssou, ça s'est décidé juste après qu'il ait fait Bercy avec Higelin et Maury Canté, 4 ans plus tard.
Alors manager, c'est un mot qui parle à beaucoup de monde, mais quel est le rôle exact du manager et en particulier le vôtre avec Youssou N'Dour ?
Ça va de réveil matin à gérer l'image et le calendrier d'un artiste.
En mars 2005, vous publiez Youssou N'Dour, la voix de la Médina, son surnom. Dans ce livre, vous y soulignez son attachement à son pays. Comment l'expliquez-vous, cet attachement aussi fort ?
Je pense que ça a été la chose la plus réussie de toute sa vie, de ne jamais quitter le Sénégal. Quand le succès est arrivé, de ne pas succomber à la mode qu'il y avait à l'époque de venir s'installer à Paris. Et beaucoup d'artistes se sont installés à Paris. Et je pense qu'ils s'y sont perdus. Voilà. Et Youssou a toujours aimé venir à Paris, mais le plus court, le mieux.
À ce jour, Michel Lahana, La Gazelle, après 37 années de collaboration, quels sont les plus beaux moments vécus avec lui ?
Oh, il y en a beaucoup. Hein.
Ah oui.
La tournée Amnesty International, moi je m'occupais du concert à Abidjan, qui je pense a été un des grands souvenirs de tout le monde. Surtout pour les artistes comme Peter Gabriel ou Bruce Springsteen, ils jouaient dans un stade, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mais devant 80 000 Africains. Et ça, ça ne leur était pas arrivé souvent.
Au milieu des années 2000, vous constatiez qu'il suivait la politique de son pays de très près. N'hésitez pas à intervenir ou à faire passer des messages lorsque les décisions ne lui plaisaient pas, qu'il connaissait le pouvoir de son nom et s'en servait lorsque besoin était. Qu'est-ce qui va le pousser à se lancer dans la politique, au grand étonnement de beaucoup et sans doute du vôtre qui pensait qu'il ne ferait jamais ?
J'ai toujours su et vu que Youssou aimait la politique. Ses textes, depuis 20 ans, sont déjà un engagement politique. Par contre, en effet, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se présente pour être président de la République du Sénégal. Et moi, comme des millions de personnes, moi j'ai trouvé ça très courageux. Non seulement je l'ai encouragé, mais je l'ai accompagné là-dedans. Et puis quand il est revenu à la musique, ça a continué naturellement.
Qualité et défaut de Youssou N'Dour ?
Qualité, déjà, c'est un très très grand chanteur. C'est un homme qui a une parole. Défaut, il n'est pas très à l'heure. Bon, ça c'est un truc d'artiste. Mais bon, non, oui, il est têtu, mais je ne sais pas si c'est un défaut.
Quelle meilleure initiative a-t-il pris depuis le début de sa carrière ?
Je crois que ce qui compte le plus pour lui, c'est d'être sur scène. Donc un morceau qui n'a pas marché sur un album peut être un morceau qui cartonne en tournée. Je pense d'ailleurs que beaucoup de musiciens devraient d'abord jouer leurs morceaux sur scène et ensuite les enregistrer, une fois qu'ils les ont complètement en eux. Voilà.
Avez-vous l'impression de croiser des futurs Youssou N'Dour ?
Sincèrement, au niveau de la carrière, oui. Au niveau de la voix, j'en ai pas encore rencontré d'autres.
Et s'il ne devait rester qu'un morceau, lequel serait-ce pour vous ?
Yakar.
En 1984, Youssou n'a que 25 ans et déjà les pieds sur terre.
Dans la mesure où c'est quelque chose d'éphémère, quoi. Ça passe vite. Et cette mode de vie qu'on vit ici en Afrique, au Sénégal plus particulièrement, c'est la vie familiale, quoi. On est responsable, on est fils aîné, on est responsable de 20 ou 30 personnes. Il y a la famille, tout le monde, les grands-pères et tout. Donc quand on est un peu devenu homme, on doit essayer d'aider vos parents. Et quand on a un métier, donc on doit s'y mettre pour survivre. Bon, donc la musique que je l'ai fait, j'ai eu du succès et top, l'argent venait. Donc ça, je ne pourrais pas essayer d'arrêter l'argent. Mais pour moi, ce n'est pas tellement important parce que Youssou N'Dour, quand il a 100 francs, il achète une voiture ou il donne à sa mère ou il mange de la viande. Ou... C'est national, ça. Quand vous avez 100 francs, vous voulez manger. Ouais. Et quand vous méritez plus de 200 francs, vous les demandez aussi.
Cette même année, Youssou N'Dour sait à qui il veut s'adresser et évoque les thèmes principaux qu'il traite dans ses chansons.
C'est l'amitié, la jeunesse, l'avenir. Surtout, c'est important pour mon pays, quoi. Nous avons un pays où il y a de l'avenir. On espère que ça va bouger aussi, comme en France ou en Allemagne ou aux États-Unis. Normalement, on doit se développer. On demande à Dieu de nous aider à nous développer, quoi. Il y a la musique, il y a la science, il y a...
Est-ce que vous êtes sensible aux problèmes de la vie quotidienne et aux problèmes des jeunes d'aujourd'hui au Sénégal ?
Oui. Bon, c'est surtout ça que, dans mes chansons, on rencontre ces trucs-là. Parce que nous, Sénégalais, nous, Africains, on a tard compris la réalité. C'est ce qui s'explique que Youssou N'Dour chante actuellement rien que Sénégalais. Et là où je chante Sénégalais, je vois des Sénégalais comprendre ce que je veux dire. Et de par la guitare qui est faite par l'Européen ou l'Américain, je m'explique avec le rythme sénégalais. Et de là, on comprend rapidement que ça viendra, quoi.
En 1992, parmi les premières entrevues qu'il va donner en France, on le croise le plus souvent sur RFI et dans la mythique émission Canal Tropical, animée par le non moins mythique Gilles Aubringer.
C'est Canal Tropical avec Jean-Pierre, la gazelle Michel et Gilles.
Lorsqu'on écoutait tes textes au début des années 80, ils étaient complètement différents. Est-ce qu'il y a eu des mouvements majeurs dans ta vie d'artiste, peut-être des voyages, des rencontres qui t'ont forgé une idée d'unificateur, par exemple, de parler peut-être beaucoup plus encore aux couches sociales défavorisées ?
Oui, au début, j'utilisais beaucoup les thèmes qui ont été déjà écrits dans la tradition. Il y a des textes quand même qui sont formidables, qui parlent de l'histoire, qui parlent des louanges de certaines personnalités.
Et de la religion aussi.
De la religion, surtout. Mais après, j'ai appris à écrire des chansons, à écrire des textes avec les voyages, avec les rencontres. J'ai appris à trouver des mots qui, au niveau de la poésie, sonnent beaucoup plus jolis et peuvent dire beaucoup plus de choses et concernent beaucoup plus les couches des populations actuelles. Mm-hmm. Et j'ai appris pendant les voyages, les rencontres, à écrire beaucoup mieux. Je pense que maintenant, je comprends effectivement comment on écrit une chanson, comment on peut... et une chanson, pour moi, doit donner un message. Et ça, je le comprends effectivement. Et j'ai pris du temps pour apprendre. Et j'aime bien apprendre. Et je pense que ce n'est pas interdit.
Ouais. Maintenant, tu as les yeux ouverts sur tout.
Oui,
parce qu'avant, lorsque tu vivais au Sénégal, tu avais le temps de sortir.
Non.
Mais non, la première fois que tu es venu à RFI, tu ne parlais qu'en Wolof, tu te souviens ?
Oui, j'ai appris. Je pense que c'est formidable pour une personne d'apprendre. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas... Je le dis, bon, c'est honnête. J'ai appris beaucoup de choses sur la route. Et maintenant, j'ai les yeux ouverts. Je pense que je suis un artiste commentateur de la société, de ce qu'on vit. Je commente beaucoup les difficultés, les problèmes que nous rencontrons, les choses que je n'aime pas, les choses que j'aime. Et à partir de ça, je pense qu'il y a une jeunesse qui s'inspire à partir de ces bonnes idées peut-être, ou des choses que je pense bien, et qui les inspire à bouger. Et je pense que c'était le cas de la chanson 7 qui a inspiré les jeunes à bouger, à nettoyer, à s'investir humainement dans leur quartier, dans leurs environnements.
Une décennie plus tôt, l'artiste est fier de présenter la musique de son pays.
C'est une musique, je veux dire, pas comme les autres, quoi. Notre musique est spéciale par rapport aux autres musiques parce qu'il y a les changements de rythme dans un morceau. Dans une musique sénégalaise, tu peux trouver quatre changements de rythme qui s'explique par des danses et des fiertés. Ouais, ça, quand tu vois l'orchestre de Youssou N'Dour ou un autre orchestre jouer avec un danseur, tu le vois et vraiment c'est joli quoi. C'est ça le Sénégal. Donc suivez-nous, suivez la musique sénégalaise, ça ira très 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 bien et ça marchera, Inch'Allah. Je lis pas de partition, j'ai fait l'école des arts un peu et puis ça m'a emmerdé parce que je me sentais pas bien avec le solfège et tout. Et je ne suis pas d'accord avec ces musiciens qui identifient juste la musique africaine avec les rythmes. La musique africaine, ce n'est pas que des rythmes. Il y a de la musique africaine, variété, qu'on retrouve dans les boîtes, qui, le genre de fête, quelque chose comme ça. Mais il y a une musique africaine très poussée, très harmonique, très mélodiquement très jolie. Et je veux dire même de la musique africaine classique, beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'essaie de développer l'autre côté, l'Afrique progressive, l'Afrique harmonique, l'Afrique contente. Pas l'Afrique tout le temps sauvage, avec des boum 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 boum.
Rythme que va populariser Youssou N'Dour et dont il sera l'ambassadeur à jamais, c'est le mbalar.
C'est un rythme qui vient des percussions Wolof le Sabar, ça s'appelle, les percus. C'est une batterie, si vous avez déjà vu Dourounia et Rose ou Vieux Cinq Feuilles, des timbres majeurs, ils ont une batterie où on peut retrouver 8 ou 7 ou 10 percus. Et chaque percu a son nom. Il y a les ndende, les talmbat, le mbengbeng. Le mbengbeng précisément, c'est cet instrument qui fait en général le rythme du mbalar précisément. Il s'appelle... Au Sénégal, quand tu fais ça, on dit il joue du mbalar. Donc c'est le mot, donc l'explication du mot mbalar, c'est ça. C'est un rythme aussi qui vient de l'ethnie Wolof et la langue. Qui est la première langue nationale au Sénégal, la langue la plus parlée et l'ethnie la plus forte, je pense. Et le mbalar aussi, c'est, pour moi, c'est une musique urbaine, une musique qui vient des villes où on retrouve des choses à la fois traditionnelles et modernes. Par exemple, la Médina, le quartier où je suis né. Ce quartier, on retrouve des choses extraordinaires qui ressemblent à cette musique mbalar qui est une musique traditionnelle et a beaucoup d'influence des rythmes de partout. Le mbalar, c'est une nouvelle génération de musique africaine parce qu'on a toujours présenté la musique africaine, que j'aime beaucoup d'ailleurs, comme quelque chose qui venait des villages, de la forêt. Je respecte beaucoup ça, cette musique traditionnelle. Mais il n'y a pas que ça dans la musique africaine. Il y a que la musique africaine a aujourd'hui des musiciens qui connaissent tout ce qui se passe dans le monde, qui savent que la musique mondiale, en général, doit quelque chose à cette musique africaine qui est la mère de toutes les musiques, de toutes les façons. Et ces musiciens, c'est la nouvelle génération qui font une musique originale, composée. Ce ne sont pas juste des reprises, des thèmes que nos ancêtres ont écrits et ont laissés, mais ce sont des musiques... de nos inspirations, quelque chose qui vient de nous. Et ce n'est pas connu dans le monde, et moi, c'est ce que je fais, et je pense que ça peut expliquer aussi le mbalar.
En En 1994, aux côtés d'une chanteuse suédoise baptisée Néné Cherry, Youssou enregistre un duo qui va le propulser en haut des charts, non seulement européen, mais australien également. C'est la révélation internationale en 7 secondes. N'est jamais là où on l'attend, vous le verrez également dans les prochains épisodes, comme en 2004 avec ce disque Égypte.
Ce qui est étonnant dans ma carrière, c'est que rien n'est programmé, rien n'est défini au départ. Moi, j'évolue, je prends les choses comme elles viennent, et puis bon, après, si je suis convaincu par ma passion que ça, c'est quelque chose qui va me faire plaisir d'abord, et j'y vais, je fonce, pourquoi pas, mais bon. Rien n'est défini pour l'instant. Touba,
Darussalam. Ce disque est évidemment chanté en wolof. Les textes, vous les avez écrits dans quelles conditions? Parce que ce sont quand même des textes vraiment basés sur la religion, sur ces remerciements à Dieu, au prophète. Vous étiez dans quelles conditions pour écrire?
J'ai beaucoup travaillé avec Kabou Gay, qui est quelqu'un qui écrit avec moi. Et les conditions, c'est en fait la mémoire un peu. Mmh. De ce que nos parents nous ont légué, parce que pendant le mois de Ramadan, surtout, après la prière, il y a une causerie. Et cette causerie, on vous parle du prophète, on vous parle de la religion, on vous parle de la vie. En fait, on lit le livre sacré, le Coran, généralement par le Naïm ou par votre père ou celui qui vous guide pour la prière. Et comme cet album a été conçu pendant le mois de Ramadan, donc énormément d'éléments étaient là que je connaissais parce qu'au fil des années, on les connaît. Et après, on va chercher des mots qui riment, on va chercher des mots qui collent, qui sonnent. Et donc ça, c'est un travail beaucoup plus avec un instrument, un piano ou une guitare, avec beaucoup de réflexion.
Joko from Village to Town, du village à la ville, est l'intitulé de l'album sorti en 2000, avec notamment ce succès en Afrique, Berima. Décennie pour devenir Rastafari, Youssou avoue sa passion pour le reggae à travers l'album Dakar Kingston.
J'ai grandi avec le reggae, même si je ne l'incarne pas. Mon oncle était disquaire à William Ponty à Dakar, et chaque week-end, même pour nous empêcher de sortir, il venait avec une Tepaz et des disques de Bob Marley, Jimmy Cliff, etc. Et moi, j'ai grandi avec ça, donc je connais et je me suis toujours dit que le reggae, c'était une rigueur militaire et un feeling comme ça, africain. This is love, Jaliva, natural mistake. Babylon system, fire, exodus. We will be forever loving your dance and music. The Rasta man, he was a really good man.
Le reggae, c'est une partie de nous parce que avec l'histoire, je pense que quand les esclaves sont partis, la musique aussi est partie. Donc c'était important de marquer la première de cet album en Afrique, pour moi, qui représente énormément. Contrairement à d'autres albums qui sont toujours des albums crossover, qui sont présentés un peu au public ici en Occident et tout, cet album n'a rien de... D'ailleurs, c'est africain aussi. Et donc, c'était important pour dire que je n'ai pas fait cet album pour le reste du monde, je l'ai fait pour le monde.
Si Marley a enregistré dans son fief de Kingston, à l'instar d'autres artistes occidentaux qui ont pu le faire chez eux, Youssou, on l'a vu, a créé lui aussi son studio dans sa chère capitale sénégalaise, où il s'est risqué.
Je pense que la musique africaine, elle est beaucoup plus forte si elle est enregistrée en Afrique. Et comme j'y habite, et moi j'ai envie de faire mes disques là, j'ai investi pour un studio qui va accueillir tout le monde.
1995, Youssou nous ouvre les portes de son studio, le studio Rippy. Diangandour, ingénieur du son et frère de la vedette, notre Woumat, notre guide.
Là, on est en train de faire un truc de Cherlo. C'est un truc qui est enregistré en 10 jours avec Youssou, avec des musiciens à Youssou aussi. Et Cherlo lui-même qui joue la guitare et Omar Sow. Et Omar Sow, Hassan Beigey et Abib Faye. Au départ, c'était un studio 8 pistes. Et après ça, Youssou a fait amener du matériel ici. Et là, ça tourne jusqu'à présent. On n'a eu aucun problème et ça marche bien.
On a que les percussions là pour l'instant.
Et puis le pied. Et là, normalement, on va... On va voir la guitare. Là, il y a la voix de Youssou. Ça, c'est la voix de Cher. Ça, c'est la basse. Là, c'est Youssou qui chante, là.
Seth, l'un des énormes tubes de Youssou, repris ici par son compatriote Cherlo, morceau qui invite les Dakarois notamment à nettoyer leur ville, l'un des engagements de Youssou N'Dour dont nous reparlerons dans le prochain épisode. Salut, Manguidam. Rich.